Radio Spirale. En juin 2012, le RAIC présentait son colloque annuel intitulé « Territoire de l'interdisciplinaire, art et environnement ». Pour inaugurer ce colloque, hommage à l'artiste Philippe Côté par Bernard Schütz et Adriana de Oliveira.
Alors bonjour tout le monde, il est 5h21, je déclare le colloque « Territoire de l'interdisciplinaire, art et environnement » ouvert. Bonjour, je suis... Ça fait 2 ans qu'on y travaille, c'est vrai. Alors bonjour, je suis Lise Gagnon, la directrice du RAIC. Vous connaissez le RAIC, vous savez qu'on rassemble, défend, on fait la promotion des artistes, compagnies, diffuseurs en art inter, à travers nos formations, nos activités de réflexion, de rencontres. On veut consolider le secteur des pratiques interdisciplinaires. Et je vais commencer tout de suite par les remerciements, parce que si aujourd'hui ce colloque existe, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé, puis je voudrais oublier personne. Donc, en premier lieu, Victoria Stanton, coordonnatrice de la diffusion au RAIC. Alors, sans Victoria, le RAIC n'existerait pas. Elle était là avant moi, puis vraiment, sa présence est tellement importante. Pour le colloque, on a eu la chance que Martin Dufresne accepte d'être le commissaire de ce colloque. Alors, c'est lui qui a organisé nos prémices, qui en a fait un tout cohérent. Merci mille fois, Martin, d'avoir accepté d'être notre commissaire. Speranza Spear, qui s'est ajouté depuis un mois à millions de tâches. Alors, merci Speranza d'être là. Chez Lani Baudin-Quintin, qui était là il y a 3 ans comme adjointe, elle était super importante à faire les choses de dernière minute, à faire le graphisme du carton, de l'annonce dans Est, de notre bannière de remerciement. Alors, merci Chélani, même si elle n'est pas là, merci. Et puis, merci Stéphanie Lagueux. Je ne sais pas si Stéphanie est ici. C'est Stéphanie, notre webmestre. Merci mille fois, Stéphanie, qui rend toutes les choses faciles du côté du site web. Ensuite, je voudrais remercier les bénévoles. Marie-Chantal Scholl, Catherine Cédillo, Frédéric Laflamme, Jacqueline Van de Gier, Julie Faubert, Morgane Guiquero, Isabelle Mathieu, Dario Bridva, Sophie Compagnon, Chloé Poirier-Sauvé, Rémi Vachereau, Anne-Marie Lanza, Kenz Mukendi et Marie-Pierre Malouin. Il y a quelques bénévoles ici qui étaient disponibles simplement pour faire des choses avant le colloque, qui ne pouvaient même pas y assister. Alors, sans ces bénévoles, non plus le colloque pourrait vraiment pas exister. Merci aux partenaires culturels, la Maison de la culture Côte-des-Neiges. Merci Luce Botella d'avoir cru dans notre projet, de nous avoir soutenus depuis 2 ans, vraiment depuis les balbutiements. Luce a été là. Merci à l'équipe, merci à Ève, merci à Christophe Nicolas qui fait la technique. Et... merci aussi, on a des partenaires culturels comme Oboro qui nous offre le soutien technique. C'est une aide inestimable pour nous. Donc, pas le soutien, mais l'équipement technique. Vidéographe, Radio Spirale, aussi sont là. Inter, Troisième Impérial, Topo sont là comme collaborateurs. Et on a des partenaires gourmands. Première Moisson de Côte-des-Neiges ici va nous offrir des choses demain et samedi. Femme à prix de Sainte-Catherine-Ouest aussi, la Maison du Cheddar vont nous offrir aussi des choses. Et merci aux partenaires institutionnels, le CALC, le CAC et le CAM. Et merci aux membres de nous soutenir. Je vais passer à un petit peu situer le colloque. Donc, c'est une gestation de 2 ans. Ce qu'on se disait, c'était qu'aujourd'hui, de plus en plus d'artistes cherchent à inscrire leur pratique, non pas dans l'espace clos d'une galerie, d'un centre d'artistes ou d'une scène, mais dans un environnement public, achalandé, isolé, à même les tissus urbains ou ruraux. Donc, c'était nos prémices. On voulait aborder cela. On voulait parler de ce que ça représente des arts dans le territoire au niveau éthique, esthétique, de l'implication, de l'engagement. On voulait parler aussi des rapports avec la nature. Est-ce que ça existe encore, les rapports des artistes à la nature? On voulait parler du public. C'était nos pistes à explorer, nos prémices. En même temps, on avait une grande préoccupation réelle pour l'environnement, ce qui est plus grand que nous, ce qui est plus grand que le moi, que le nous. Et aujourd'hui, on est à une époque où beaucoup d'argent est mis dans le mobilier urbain, dans les lumières, où les artistes sont sollicités beaucoup, notamment par le quartier des spectacles, pour soumettre des projets ludiques. Alors, on se disait, on doit s'interroger sur la place que les artistes prennent dans l'environnement et sur le territoire. Aujourd'hui, rien n'est plus beau que le mouvement de protestation étudiante, que tout ce que ce mouvement a soulevé, et rien n'est plus laid que notre gouvernement corrompu et manipulateur, que la violence inacceptable des policiers brutaux. Avec ce mouvement de protestation-là, l'art est au cœur de la cité. Et c'est quelque chose dont le colloque va parler, quelque chose qu'il va aborder. Et moi, depuis 1 an, j'ai ce petit livre-là dans mon sac et je le lis à chaque fois que j'ai un moment où j'attends l'autobus ou le métro, je sors mon petit livre qui était inséré dans la revue Inter. Et je le lis parce que ça m'inspire beaucoup. C'est un guide de l'usager pour l'impossible qui était, c'est ça, dans la revue Inter, du laboratoire, je le dis en français parce que mon anglais est tellement horrible, du laboratoire d'insurrection, attendez, c'est le laboratoire de l'imagination insurrectionnelle, si on peut dire en français. Alors, ça nous dit, regardez autour de vous. Nous sommes dans un espace entre les certitudes, un moment historique où la société est plus malléable qu'à la normale, où le potentiel a le pouvoir et où les formes de la vie peuvent changer rapidement. Je ne lirai pas tout, donc je passe à la dernière page. La beauté de la protestation ne réside pas simplement dans son aspect, ni dans le plaisir et la joie qu'elle engendre dans nos corps, mais de façon aussi importante dans sa réussite. La résistance créative ne se résume pas à élaborer des coups médiatiques visuellement excitants, c'est beaucoup plus que cela. C'est faire des choses qui fonctionnent, c'est construire des situations qui perturbent les mécanismes du pouvoir et nous montrent notre propre pouvoir, notre propre potentiel de connexion et de création. La beauté se loge dans l'efficacité de son usage et il n'y a rien de plus beau que de gagner. Alors, c'est de ça que le colloque va parler aussi. Et ce soir aussi, on est réunis parce que on rend hommage à Philippe Côté, parce que je voulais vraiment qu'on dédie ce colloque sur les arts et le territoire à Philippe, parce qu'il se devait d'être parmi nous. Alors, je remercie infiniment tous ceux qui participent ce soir à cet hommage. En tout premier lieu, Céline Flao, qui a rendu cet hommage possible. Merci mille fois, Céline, de ta participation, d'être là, d'avoir été là. Merci, merci. Bernard Schultz qui va faire une présentation sur Philippe. Sonia Pelletier qui va aussi parler de la publication qu'Agence Topo est en train de réaliser sur la société de conservation du présent et le dossier qu'Inter consacré à Philippe. Et Adriana de Oliveira qui va parler d'une lettre qui est vraiment une belle œuvre et elle va nous en parler. Alors, merci, merci d'avoir accepté de participer puis de faire que cet hommage soit là. J'espère que l'esprit de Philippe sera présent tout au long des 2 jours et que ceux qui l'ont connu n'hésiteront pas à y faire référence durant le colloque. Alors, c'est ça que j'espère, que demain, dans les rencontres, dans les tables rondes, qu'on puisse parler aussi de Philippe. Alors, je passe la parole à Martin Dufresne, notre commissaire. Je vais vous le présenter brièvement. Alors, c'est un artiste de l'installation de la photographie de l'art action. Avec l'artiste Carl Bouchard, il travaille aussi en duo à des sujets, des œuvres qui sont liées à des questions d'identité, d'altérité, de relations. En ce moment, il est coordonnateur de la programmation à Dardar. Alors, sans plus tarder, je vous laisse Philippe. Oui, je vous laisse Martin qui va situer le colloque. Merci.
Bonsoir. Donc, moi aussi, je vais commencer par un remerciement. Merci au RAIC, à Lise et Victoria de m'avoir invité à ajouter ma vision à la leur pour ce colloque. C'était une chose agréable, c'était une chose facile parce que dès le départ, on partageait des partis pris, un désir de faire que cet événement-là soit un moment d'échange, un moment de débat aussi, qui ait de la place à des échanges d'idées. Un parti pris pour qu'il y ait une diversité de voix, des voix plurielles, des voix d'artistes, de chercheurs, mais aussi la perspective de gens qui travaillent dans des centres, dans des organismes qui soutiennent, qui coproduisent, qui font en sorte que des pratiques artistiques soient présentes en dehors des lieux dédiés à l'art. Une diversité aussi de pratiques interdisciplinaires qui viennent de terreaux différents, des pratiques qui sont des arts médiatiques, de l'art action, de la performance, de l'artivisme, des pratiques militantes liées aux communautés, d'autres plus près du bio-art. Encore là, l'idée de diversité de paysage, diversité d'environnement. Donc, qu'on passe de lieux urbains à périurbains à la nature, des projets qui portent leur regard au paysage en regardant le ciel, projets qui expérimentent le territoire autour d'étendues de lacs, des projets qui investissent le cyberespace, donc plusieurs environnements. Et mon travail, en fait, associé à la vision de Victoria et de Lise, c'était de distinguer à partir de dossiers, de propositions, de conférences, d'œuvres sur le toit, ici à la Maison de la Culture, de projets de déambulation, d'établir, de voir, de distinguer quatre axes principaux pour tenir des tables rondes. Donc, les quatre axes qui ont été relevés sont celles d'opérer à même le réel. Donc, qu'est-ce que c'est que l'expérience d'organismes et de centres qui soutiennent ces pratiques-là, qui sont justement à l'extérieur des lieux dédiés à l'art. Donc, c'est la première table ronde, les grands enjeux. Qu'est-ce que c'est que de soutenir? Bon, avec, encore là, tout comme dans le cas des artistes qui participent, des gens qui sont des pionniers, qui ont une expérience depuis de très nombreuses années, et aussi la perspective plus récente d'artistes et de centres plus jeunes. Donc, après quoi, justement, Lise, tu le relèves bien, on est dans une conjoncture absolument inspirante pour réfléchir à la place publique, à la place de l'art, à la place des artistes. En ça, on a identifié, on a désiré réfléchir sur l'éthique et sur l'implication sur l'art engagé, l'art qui a une dimension participative, où la communauté y joue un rôle important et où la notion d'auteur est remise en question, en fait. C'est le deuxième axe de la deuxième table ronde. Encore là, un regard aussi qui n'est pas strictement dans le champ des arts visuels ou des arts médiatiques, mais aussi la contribution, la perspective de gens qui sont du plus près du milieu de l'urbanisme, de l'architecture ou de l'architecture du paysage. Plus loin, la troisième table ronde, elle réfléchit la question du paysage, un paysage qu'on peut inventer, un paysage qui est exploré, expérimenté et qui est pluriel lui aussi. Et la quatrième et dernière table ronde, elle pose la question d'identité dans le territoire, avec des identités culturelles, des fictions aussi. Donc, des projets dans lesquels la narrativité joue pour beaucoup, où on invente, où on nomme, où on transforme le territoire. Donc, ce sont les quatre axes pour les tables rondes. Bien entendu, le projet déambulatoire d'Audiotopie et le projet de Nicole Fournier, que vous pourrez apprécier sur le toit, projet d'art vivant. Bon colloque.
Alors, je passe maintenant la parole à Victoria Stanton qui va vous présenter les artistes participants au colloque.
Bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir pour le lancement de notre colloque. Nous sommes très heureux de vous voir. Déjà, Lise a mentionné c'est qui va présenter ce soir, mais pour les tables rondes, nous avons, je ne vais pas nommer à quelle table ronde, je vais juste dire le grand topo de tous les artistes et théoriciens, théoriciennes qui seront là pour présenter pendant les deux jours qui suivent, vendredi et samedi. Alors, nous avons demain matin, du 3e Impérial Centre d'essai en art actuel, Daniel Alain. Le Centre d'art d'art, nous avons Geneviève Massé, des escales improbables, Sylvie Test, et Péristyle nomade, nous avons Catherine Lalonde. Vendredi aussi, on aura une présentation justement de Nicole Fournier et la déambulation qui va être là à l'heure du dîner, donc Audiotopie, déambulation, puis le projet de Nicole Fournier Interart qui se déroule sur l'œuvre, sur le terrasse ici à côté, bien en fait au deuxième, dans la galerie de la Maison de la Culture. Nous avons aussi, c'est-tu bien vendredi? Oui, on aurait une petite discussion des projets de Nicole Fournier ainsi que Audiotopie pour avoir une idée de leur parcours, de leur démarche qui nous donne les œuvres que nous allons voir pendant le colloque. Donc, après Annie Roy de ATSA, et nous avons aussi de l'Engrenage noir, Joanne Chagnon, qui sera accompagnée par Maryse Conti, Victoria Thibodeau, Lise Perron et je crois Nicole Saint-Amour. Jean-François Prost de Sin Adaptive Actions, ainsi que Mélanie Mignot de NIP Paysage. Et nous avons un rajout que nous sommes très contente vu que dans l'optique de ce qui se passe maintenant à Montréal avec les manifestations depuis plusieurs semaines, Anne Bérubé, prof de Cégep du Vieux-Montréal, ainsi que militante et artiste interdisciplinaire, se rajoute à cette table ronde qui est sur le sujet de l'artivisme. On a trouvé que c'était très pertinent, fait qu'elle va être là aussi pour présenter. Et nous sommes très heureuses pour ça. Heureuse. Moi, je suis heureuse, nous sommes heureuses, mais ensemble, nous sommes heureux. OK. Voilà. C'est bien, on est tout heureux. Samedi, nous avons Francine Larrivée, Charlotte Panaccio-Letendre, Moheb Solomon et Sarah Wookie, ainsi que Jonathan Lamy, Elena Martin-Franco, Marc-Antoine Kefaneuf et Scawanari pour les tables rondes. Mais nous avons aussi une présentation spéciale pour le correspondance en ligne qui est là depuis le début du mois de mars sur le site du RAIC. Nous avons deux artistes, Elizabeth Chitty, qui habite à Hamilton, Ontario, une artiste établie, une artiste, c'est quoi, chevronnée, c'est ça le mot, interdisciplinaire qui est en correspondance avec Caroline Monet, une artiste émergente qui vient de déménager à Montréal, artiste autochtone, et les deux, depuis plusieurs semaines, sont en train d'échanger sur leurs pratiques en art inter, pour voir les liens, pour voir les différences, pour voir comment on communique cette expérience ensemble. Donc, pour montrer un autre aspect de cet échange, puisque c'est toujours visible sur le site du RAIC, on aura une présentation de chacune qui va parler de cette expérience d'avoir eu cet échange depuis les derniers 3 mois. C'est-tu 3 mois ou 4 mois? Presque 4 mois, finalement. Fin de mai. 3 mois, OK. I'm not counting very quickly. Donc voilà, ce sont les artistes, les théoriciens et théoriciennes qui vont être présentes, les activistes aussi finalement, les mélanges entre tout pendant le colloque. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci.
Et comme on a deux lancements ce soir, avant de passer à l'hommage vraiment à Philippe, je donne la parole à Daniel Alain, oui, du troisième, qui va venir nous parler de la publication qui sera lancée ce soir et peut-être un mot de l'implication de Philippe au troisième.
C'est la bonne hauteur. Bonsoir. Alors oui, moi je suis impliquée au troisième impérial depuis plusieurs années. En fait, depuis sa fondation en 1984. Pour ceux peut-être qui connaissent pas ou peu le Troisième Impérial, c'est un centre d'artistes qui a fait vraiment le cœur de sa mission, le travail en art infiltrant, donc une implication vraiment dans la territorialité. Et je suis très heureuse donc de lancer une publication et un DVD ici ce soir et de participer aussi au colloque. Donc, la publication qu'on lance ce soir, c'est la troisième d'une série de trois qui s'appelle « Champs d'intérêt, infiltrer, habiter, spéculer ». Donc, la triade « infiltrer, habiter, spéculer » résume en quelque sorte les processus de travail qu'on a développés au Troisième Impérial et dont j'aurai l'occasion de vous parler demain matin. C'est une publication qui présente le travail de 5 artistes qui ont fait des résidences au Troisième Impérial. Donc, on travaille dans un mode de coproduction avec les artistes et on les accompagne, on les soutient, on est vraiment impliqués à fond dans toutes les étapes du projet. Et les artistes de cette publication sont Guy Blackburn, Ève Cadieux, Éric Cardinal, José Dubot et Alain Fleurant. Et je tiens à remercier certaines personnes pour le travail dans cette publication-là. Stéphanie Lagueux, dont on a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si elle est ici, mais enfin, Stéphanie Lagueux, est aussi notre ange, donc on partage cet ange-là avec le RAIC. Et c'est elle qui a travaillé à tout le travail d'infographie pour la publication, que je vous montre ici. Et Patrick Beaulieu, qui est un membre de l'équipe du Troisième Impérial, très précieux aussi, qui a travaillé abondamment à la préparation des images, à plein d'étapes de la publication. Patrick, qui accompagne aussi les artistes dans les projets. Il y a deux textes dans cette publication-là. Un de Julie Bellil qui parle de ses projets, des artistes, mais également aussi un texte de fond de Julie Boivin qui est venue faire une résidence au Troisième Impérial et qui a vraiment scruté à rebours la démarche, tous les projets qui ont été réalisés depuis 1997. Alors, c'est vraiment un excellent texte qui explore vraiment la portée temporelle de ces projets, de cette action artistique sur le territoire. Et aussi un DVD, en fait une compilation vidéo de tout le cycle Champs d'intérêt, c'est-à-dire que c'est, je crois, 13 artistes au total. Donc, les montages vidéo qui ont été faits surtout par Véronique Malo et quelques-uns par Suzanne Joly, et le travail de post-production, l'excellent travail de post-production de Patrick Beaulieu, encore là. Alors, je vous invite à les consulter. On a une table à l'arrière. Et pour finir, oui, j'aimerais peut-être juste souligner qu'on a eu le bonheur de travailler avec Philippe Côté pendant plusieurs années, en fait. On l'a connu tout d'abord parce que Philippe est venu faire une résidence d'artiste au Troisième Impérial en 1997-98. Et il a réalisé un magnifique projet qui s'appelait « Tomba le verglas ». J'ai apporté des publications, en fait, j'ai apporté cette publication qui date de 2003, mais dans lequel il y a un projet de Philippe Côté, un autre projet, en fait, dans le cadre d'un événement collectif à l'ICA, 8 manœuvres en quête d'un territoire, donc un projet de Philippe à Montréal. Alors, cette publication-là est disponible aussi. Et également... une publication qui date de 1999-2000, dans laquelle Philippe avait écrit le texte éditorial. Et à l'époque, il avait amené cette idée de rurbanité au cœur de nos projets. Donc, vraiment, je peux dire que le passage de Philippe Côté au Troisième Impérial, le projet, particulièrement le projet Tombale Le Verglas, fait partie des projets fondateurs du Troisième Impérial et son implication a été importante. Voilà, merci. Bon colloque.
Alors, j'inviterai maintenant Sonia Pelletier, qui va nous parler et de la revue Inter, du projet de la revue Inter et du dossier de la revue Inter et de la publication d'Agence Topo. Juste dire que Sonia est coordonnatrice de projet, critique et commissaire indépendante. Elle a eu plusieurs publications et en ce moment, elle est coordonnatrice à l'édition de Ciel variable et prépare un ouvrage sur la société de conservation du présent avec Agence Topo.
Bon. Je pense que je vais vous parler tout de suite de la revue Inter pour commencer. La revue Inter était tout indiquée pour nous pour rendre hommage à Philippe, puisqu'il y a participé à plusieurs reprises dans le courant entre 1995 et 1997 à titre d'auteur. Je mentionnerai à ce propos, quelques textes en 1995, « Des mœurs portatives, proposition manifeste sur le médium portatif de la carte de plastique », un autre sur Walter Benjamin Franklin Roosevelt Bridge projet, « La station de pompage au centre d'interprétation du pilier du pont Jacques-Cartier », Quand fut-il d'Isea en 1995 et les infrastructures du vivant en 1997. Il a aussi participé en 1994 dans une manifestation d'art-performance à titre d'artiste avec « Et patati, patata ». Cet hommage, est bien humble par rapport à ce qu'il a été. Je pense que Bernard nous parlera peut-être de ce que l'homme était, de ses réalisations. Nous, on a fait, moi et mes camarades lui ont rendu hommage tout d'abord par le biais d'une introduction. En second lieu, nous avons publié une entrevue inédite qui a été réalisée par Bernard Schütz au printemps 2011, avant que Philippe ne disparaisse, et ça portait justement sur les préoccupations urbaines et ses activités à la suite de la dislocation, si vous voulez, de la Société de conservation du présent vers 1994. Donc, l'entrevue a été transcrite par Philippe Bézier et j'en ai fait moi-même une retransposition qui est assez libre. Peut-être que Bernard pourra vous en parler un petit peu davantage tout à l'heure. À l'intérieur de la revue, il y a aussi un texte plus théorique sur un concept de translexion qui stipule que le non-art de Philippe est le propre des pratiques immatérielles qui se transmettent par la voie de l'oralité. On sait que Philippe parlait beaucoup, transmettait beaucoup de choses, intervenait beaucoup d'une façon assez furtive. Donc, ça n'a pas toujours été facile d'être témoin de toutes ses actions. Et pour finir, nous avons un dessin. Le dessin que voici, dont Michel Lefebvre a fait aussi une interprétation. Donc, voilà pour l'hommage qui est bien humble, mais je vous invite, une revue étant ce qu'elle est, je vous invite à vous la procurer et lire les textes qui ont été écrits pour cet hommage. En ce qui concerne le livre qui va paraître, qui est prévu en fait pour 2013, début de janvier, c'est un ouvrage qui va porter essentiellement sur la société de conservation du présent, donc le collectif, le mouvement que l'on associe environ entre 1985 et 1994, collectif qui impliquait évidemment Philippe comme membre, mais aussi Alain Bergeron et Jean Dubé, et qui a œuvré avec des pratiques infiltrantes, on pourrait dire, et c'était un mouvement d'avant-garde qui est très peu connu. Et avec ce livre, on va tenter de rendre, si vous voulez, l'esprit, le contexte et aussi l'atmosphère qui régnait dans ces années-là par le biais de collaborations de plusieurs individus qui les ont côtoyés, qui les ont rencontrés, jalonnés des projets qui ont été effectués par la SCP et aussi selon leurs trois grands principes qui étaient celui de le principe d'archive, l'art de la promesse et le désœuvrement. Donc, il y aura aussi une version électronique, une version web avec des ajouts d'archives plus auditives ou des vidéographiques qui sera dirigée aussi par Michel Lefebvre. En collaboration, nous produisons l'ouvrage en collaboration avec l'agence Topo. Et notre comité est Bernard Schutz, Michel et moi. Donc, si vous voulez être tenu au courant du lancement et peut-être d'un événement qui aura lieu pendant ce lancement-là, vous pouvez communiquer avec l'agence Topo, elle vous donnera les informations. Donc voilà, je vous invite à vous procurer tout ceci. Est-ce qu'on a passé l'image de Sonia Robertson? Il y a aussi, j'ai oublié de mentionner dans la revue Inter, une installation qui a été réalisée par Sonia Robertson dans un premier temps à la Maison de la culture Notre-Dame de Grâce et plus récemment chez Armure dans une exposition collective d'art autochtone qui s'appelait « Baliser le territoire ». Je vous lis la légende reproduite dans la revue parce que elle permet de bien décoder l'œuvre. Ça s'intitule « Évocation d'un territoire perdu à la mémoire de Philippe Côté ». C'est une évocation du sentier des Mohawks, s'appelant aujourd'hui Côte-Saint-Antoine, qui traversait autrefois l'île de Montréal. Cette œuvre amène la mémoire de la nature et des grands arbres. Voilà. Merci.
Alors, avant de passer aux dernières présentations, on va regarder la vidéo « Combien de vies » qui a été faite par la Société de conservation du présent avec Philippe Côté, Alain Bergeron, Jean Dubé. C'est 17 minutes. C'est Philippe Côté quand il était tout jeune, mais je trouve que c'est Philippe puis les étudiants aujourd'hui, c'est le même combat, c'est la même énergie, c'est la même imagination. Et dans la vidéo, à un moment donné, Philippe cite un érudit chinois du 9e siècle. Il dit, cet érudit, l'important n'est pas de savoir voler dans les... Pas l'important, mais le plus surprenant n'est pas de savoir voler. Mais le début, je ne m'en souviens pas exactement, mais est-ce que c'est le plus surprenant ou l'important n'est pas, mais de voler dans les airs, de marcher sur les eaux, le plus important est de marcher sur la terre. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important, c'est de marcher sur la terre. Donc, on vous laisse avec une œuvre, l'œuvre de la SCP, 17 minutes, puis ensuite on revient pour les dernières présentations.
Numéro d'archive 36 834. Vous commencez à parler des archives. Il y a, on peut nommer des héros modernes, comme par exemple Kibo Owa, japonais d'origine résident à Montréal. Il se passionne pour l'étude comparée d'Hiroshima et d'Auschwitz. Ne le cherchez plus, il a installé son quartier général aux archives du Congrès juif canadien. Dans Enquête sur les militaires et les instructions, c'est par rapport à ce que les militaires ont fait avec les archives à Bogota, en Colombie. Ils ont tout brûlé, puis ils en ont profité aussi pour tuer les membres de la Cour suprême du pays lors d'un attentat terroriste fait par le M19. J'aurais peut-être envie de, quelque part, de faire un projet qui s'appellerait « Se renseigner sur Walter Benjamin », dans le sens où cet homme avait envie de faire un livre qui ne serait qu'une collection de citations, car cet homme était vraiment dans la manie de la collection, il aimait les jouets d'enfants, il trouvait qu'il y avait plus de philosophie dans un coin de rue, des jouets d'enfants, des livres d'enfants, des livres de fous. Il trouvait. Alors, il se pourrait bien à ce moment-ci que je ferais peut-être qu'une accumulation de citations sur quand même dans des grands axes. Principe d'archive, parler de l'original de la copie, parler de la promesse, parler de l'histoire de Galilée. Je commencerai à ce moment-là avec deux citations inaugurales. Qui renvoie à notre projet d'ailleurs, combien de vies, l'absence de Dieu et tous. Que, voilà, c'est dans l'Ecclésiaste, avec le livre de Job, c'est les deux livres qui traitent du problème du mal dans la Bible. Alors, c'est le livre où il dit « Tout n'est que vanité, vanité. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'en est point remplie. Pourtant, les fleuves ne continuent pas moins d'y couler sans arrêt. » Il y a comme l'oubli des pluies, là. « Tous les discours sont fatigants, mais non, on n'arrive pas à tout dire. L'œil n'en a jamais assez de voir, l'oreille n'est jamais pleine d'entendre. Rien de nouveau sous le soleil. Quand on dit une chose, tiens, voilà du nouveau. Elle était pourtant déjà arrivée dans tous les siècles qui nous ont précédés. Il y a une proposition de la SCP qui dit « L'histoire est close, nous viendrons après. » Nous continuons l'Ecclésiaste. Mais on ne garde pas mémoire des anciens temps. D'ailleurs, de l'avenir lui-même, ceux qui viendront après ne se souviendront pas non plus. Histoire de revenir aux sous matérialistes. Le vrai miracle, ce n'est pas de voler dans les airs ou de marcher sur les eaux, c'est de marcher sur terre. Entretien de l'Inti, 9e siècle, en Chine. De fait, si on doit aborder le principe d'archive, hormis des choses comme à comprendre que la destruction fait aussi partie de l'archive, il y a souvent, on va dire, que c'est qu'il y a des copies, il y a des originaux. Mais ce qui compte, c'est le fond d'archive en tant que tel. C'est ce qui s'accumule, ce qui fait sédimentation. Et que ce soit de la duplication ou toute forme d'enregistrement, pourvu qu'il soit dans la sédimentation, c'est le fond d'archive, ça constitue l'archive. Que ce soit un original ou une copie, cela pas très important. On peut toujours à ce moment-là déclarer que oui, à ce moment-là, si on travaille comme la copie, ça alors rejoint, bon, comme un chant, comme le simulacre, la parodie, la simulation, le monde de l'enregistrement. Et que quand on parle comme ça, c'est qu'on serait, en fin de compte, dans le monde, là, dans genre... on n'est pas seul à s'occuper du monde de la simulation. Comme par exemple, Suzanne Sontag affirmerait que notre siècle est le siècle du pastiche, c'est-à-dire de la reprise et de l'imitation artistique de l'autre aux fins de parodie et d'imitation dans un nouveau système. Alors, il est rendu définitivement impossible par les activités nouvelles des juristes de notre démocratie, ou alors seulement en sortant des voies légales de cette démocratie petite bourgeoise avec toutes les conséquences qu'un vol comporte, on ne doit utiliser aucune image, aucun son, aucun texte, sans en avoir fait la demande préalable, sans en être passé par des négociations avec les agences, sans permission, sans attestation écrite des intéressés. Les affaires. Mort de la polémique, de l'exécution et de l'ironie dans un art déjà démocratisé. C'est ici Bergberg, un film, Hitler, un film d'Allemagne, cet homme fait ça. Sinon, pour une autre citation sur la copie, si on veut, c'est de faire comme peut-être une constellation plutôt que de faire un discours rigide. C'est comme Barthes se demande comment, en fin de compte, s'en sortir du démon de l'analogie, qui est en fin de compte le monde aristotélicien, celui où on a à lire dans les livres et non pas à lire dans la nature. Parce que comme Galilée disait, peut-être la nature serait le grand livre, pour reprendre cette métaphore, et ses signes seraient la mathématique ou des formes simples, pythagoriciennes et les atomes de Démocrite. Enfin, pour sortir du démon de l'analogie, comment? Par deux excès contraires, ou si l'on préfère, par deux ironies qui mettent l'analogie en dérision. Soit en feignant un respect spectaculairement plat, c'est la copie qui, elle est sauvée, soit en déformant régulièrement, selon des règles, l'objet mimé. C'est l'anamorphose. L'anamorphose étant des règles, ou en feignant, c'est l'invention de la perspective, la géométrisation de l'espace. On savait que les Chinois connaissaient déjà ça, mais les premiers, autrement dit, c'est que normalement, c'est quand on met un miroir déformant, l'image réelle est déformée. Mais faire une peinture déjà déformée pour que dans le miroir, elle soit déjà parfaite, réaliste, avec le perspectiviste, en fin de compte, c'est en 1625 en Europe qu'on a pensé à utiliser le miroir pour que dans le miroir, cela soit bien clair. En fin de compte, les Jésuites s'en sont servis, tout comme les Jésuites ont aussi poursuivi Galilée. Je vois à ce moment-là une autre citation aussi pour installer la copie dans un discours, là, comme si la littérature s'André Gervais, un homme du Québec s'est intéressé à Marcel Duchamp, qui a sorti un livre qui s'appelle La réalité des faits, que tout objet peut être transformé. C'est le mode de la parodie. Toute façon peut être imitée. C'est le mode du pastiche. Il n'est donc pas d'art qui échappe par nature à ces deux modes de dérivation qui, en littérature, définissent l'hypertextualité et qui, d'une manière plus générale, définissent toutes les pratiques d'art au second degré ou hyper-esthétique, pour des raisons que nous allons rencontrer. Je ne pense pas qu'on puisse légitimement étendre la notion de texte et donc d'hypertexte à tous les arts. Que ici, imiter directement, c'est-à-dire copier un tableau ou une sculpture, c'est tenter de le reproduire le plus fidèlement possible par ses propres moyens. C'est un exercice dont la difficulté et la valeur technique sont évidentes. Aussi comme pour les arts manuels, en fin de compte, où on peut faire facilement un texte à la main, mais faire une sculpture, c'est plus complexe. Mais si nous revenons toujours à quelque chose qui pourrait être quelque chose comme... Genette dit fortement que la distinction fondamentale entre pratique de transformation et d'imitation, c'est-à-dire entre parodie et pastiche, lui semble quant à elle, jusqu'à preuve du contraire, d'une pertinence universelle. C'est toujours l'enjeu de la scientificité, là, d'universalité. Ajoute immédiatement, mais cela est le début d'un autre paragraphe, à moins qu'elle ne s'abolisse en un point précis qui est cette pratique déjà signalée comme spécifique aux arts plastiques, la copie. Parce que pour les arts plastiques, je citerai Marcel Duchamp. Donc, si je dis que tes tableaux n'ont rien de commun avec ce qu'on voit généralement classé et accepté, que tu as toujours su produire des choses entièrement tiennes, comme je le pense vraiment, cela ne veut pas dire que tu aies droit à t'asseoir à côté de Michel-Ange. De plus, cette originalité est suicidale, dans ce sens qu'elle t'éloigne d'une clientèle habituée aux copies de copistes, ce que souvent on appelle la tradition. Il y avait Buñuel qui rapportait une citation de Voltaire qui disait que tout ce qui est en dehors de la tradition est du plagiat. Pour inverser les choses, faire une belle donnée. Or donc, nous revenons ici à ce paradoxe entre parodie et pastiche et l'enjeu de la copie. Comme la transformation, c'est-à-dire la parodie, la copie ne s'intéresse qu'à son objet singulier. Et plutôt que comme un pastiche absolu, c'est-à-dire une imitation absolue, il serait plus juste de le définir comme une transformation nulle. Et comme bien sûr aucune copie n'est jamais parfaite, il convient de définir la copie comme une transformation minimale, en donnant ici à l'adjectif son sens le plus fort possible, celui non pas d'une transformation très faible, mais d'une transformation aussi faible qu'il soit humainement possible. La copie est donc cet état paradoxal d'un effet d'imitation maximale obtenu par un effort de transformation minimale. Fait que ici, pour la copie, on pense toujours à original quand on pense à copie. Fait que il y avait notre député Gérald Godin qui a participé au mouvement TIPOP. loin, qui déclarait dernièrement que rien de tel d'avoir des idées originales plutôt que d'avoir 454 piastres en poche. Est-ce que je fais un court intermède dans ce temps vidéo, sachant que les gens, les spectateurs en moyenne, regardent 40 minutes de nouvelles à la télévision? Et que si un topo dépasse 1 minute 20, l'attention du spectateur diminue et il se met à parler avec les gens qui l'entourent. Et que si une image n'est pas percutante, on perd l'attention du spectateur après 5 ou 6 secondes. Moralité, il ne faut pas s'éterniser. Sauf que toutefois, si on regarde l'enjeu d'archiver le temps, je trouve un étonnant problème, c'est qu'on a pris considération du film, de l'enregistrement visuel, du défilement des images, que dans l'après-guerre. On pourrait considérer, dans des explications pratiques, que c'était l'industrie qui n'est pas à garder des produits de second ordre et que tout a été détruit. Exemple, ici au Québec, il ne reste que 4 émissions des Ploufs à Radio-Canada. Ça fait scandale quand ils ont fait le film et il n'y avait plus d'émissions des Ploufs. Pourtant, ils ont gardé tout le décor, ils ont gardé les objets, ils ont gardé ce qui était spatial, mais pour l'enregistrement du temps, cela n'a pas eu lieu. Fait que, on pourrait peut-être à ce moment-là dire que, en pensant au cinéma, on pourrait voir aux vidéos aussi, que le cinéma correspondrait à une étape nouvelle. On sait par exemple qu'en matière d'espace, la notion de patrimoine s'est élargie, exemple tout le Vieux-Montréal, et qu'en matière, on le garde, et que les restes réels ou en puissance ont été traités différemment. D'un marquage du territoire par saupoudrage de micro-traces, on est passé à une conservation ouverte et essentiellement visuelle du paysage, comme le Mont-Royal. On peut alors penser qu'un processus semblable se dessine en ce qui concerne le temps. La photographie, le choc du moderne, c'est l'invention des briquets, c'est prendre une photo, c'est aussi rapide que ça, ça renvoie plus au vieux métier de peindre. La photographie, c'est Walter Benjamin qui parle de ça, aurait été la première étape dans cet archivage du temps. Elle aura permis la ponctuation par des temps différents. C'est l'approche statique qui consiste à ne conserver que des signes univoques et espacés, équivalents dans le système spatial de la statue du monument, pas du tout du site. Avec le cinéma, on se rapproche des ensembles architecturaux et des quartiers sauvegardés. Une conservation plus élargie, plus enveloppante, qui joue sur des tranches de temps, comme elle le fait sur des tranches d'espace en urbanisme. Car le film est moins univoque que la photo, il agrège un ensemble de perceptions en sus du discours monumental porté par celle-ci. Enfin, avec la conservation systématique des images, le développement des magnétoscopes, la multiplication des archives spécialisées, on arriverait dans le champ de la conservation ouverte, plurivoque, équivalente dans notre analogie à la politique des paysages, qui fait de l'espace de la production un espace isomorphe à celui de la conservation. Toujours pour rester dans le Zeitgeist ou bien le Dasein, comme à partir de quelques vecteurs, je ne sais pas, comme la vitesse par exemple. La vitesse moderne macédoine. J'aimerais aborder à ce moment-là, vu que je fais des déclarations, que peut-être je ne fais pas d'art. Car il semblerait que les arts, on aurait besoin d'avoir des objets. Mais à ce moment-là, comme les objets seraient plus vrais, supposément. Mais j'aimerais quand même citer dans la philosophie américaine, dans le sens où il semblerait que le problème de parler a toujours été de parler vrai ou de parler faux. Que l'enjeu des actes, c'est de les découvrir comme performatifs ou bien constatatifs. Sauf qu'on pourrait peut-être remplacer le vrai et le faux par le bonheur et le malheur, c'est-à-dire réussite et échec de l'acte, de l'opération en question. C'est que les échecs se divisent en deux catégories majeures, celle du raté, celle de l'abus. Il se produit lorsque l'acte qui visait l'énonciation performative, dans le sens où ici c'est un sujet qui déclare quelque chose, si je déclare que je fais de l'art, on devrait bien m'entendre comme ça. D'ailleurs, pouvons même dire que nous, de la société de conservation du présent, nous parlons. Fait que n'aboutit pas, donc ça ne s'accomplit pas. Que si j'ai dit d'autre part, je promets, mais sans l'intention de tenir ma promesse, ou sachant que je ne pourrais pas la tenir, l'acte performatif de promesse est malheureux en raison d'un abus, mais non plus en tant que raté, non avenu. En effet, que je sois ou non sincère en énonçant « je promets », j'accomplis de fait même l'acte de promettre. l'acte réussi s'effectue, mais s'effectue dans la mauvaise foi. En accomplissant la promesse, je trompe mon interlocuteur. Bien que réussi, l'acte comporte donc une forme d'échec. Il est voué au malheur en raison de mon abus. Je sais qu'à ce moment-là, c'est une déclaration de la SCP. La promesse n'a pas à être tenue. Car il semblerait bien que, en étant, le travail, je sais pas, du moins que nous vivons en société, que nous faisons, nous sommes ici, que nous promettons quelque chose. En étant, du moins, on espère sur nous. À ce moment-là, on pourrait toujours, puis, où est-ce qu'on se tient? C'est où est-ce qu'il appelle notre sujet? Je disais qu'on était en art. Que j'aimerais citer à ce moment-là Marcuse en étant sur cette promesse. Elle aussi est une propriété de la forme esthétique, ou plus exactement du beau en tant que propriété de la forme esthétique. La promesse est arrachée à la réalité établie. Elle évoque une image de la fin du pouvoir, l'apparence de la liberté, mais seulement son apparence. Il est clair en effet que l'accomplissement de la promesse ne relève pas de l'art. L'inversion de l'histoire est une idée directrice de l'art, par la fidélité conservée jusqu'à la mort à la vision d'un monde meilleur. Ce serait aussi quelque chose comme dire que c'est ça l'art, comme lui déclare, est un monde de la liberté et du bonheur. Et comme disait l'autre, le bonheur est une idée récente, elle remplace l'antiquité du destin. Enfin, à la vision d'un monde meilleur, à une vision qui reste vraie même dans la défaite. En même temps, l'art milite contre une implacable notion du progrès, contre la confiance aveugle en une humanité qui finira par s'affirmer. Sinon, l'œuvre d'art et sa prétention à la vérité ne sera que mensonge. La déclaration, si nous on veut faire de l'art, la promesse ne peut pas tenir, l'art ne peut pas tenir sa promesse et la réalité n'a pas de promesse à offrir, rien que des chances.
Publié dans différentes revues. Il a produit aussi des opuscules, des textes, des catalogues, des monographies d'artistes. Il a en outre présenté des communications dans le cadre de plusieurs manifestations artistiques et expositions au Québec, au Canada, en Europe. Il vit et travaille à Montréal. Il y a un livre, Espace traversé, qui est en vente à l'extérieur. C'est les actes du colloque, du premier colloque sur les pratiques interdisciplinaires. C'est sous la direction de Guy Laramé. Je sais que Geneviève Le Tartre y participait, puis Bernard aussi a fait un texte qu'on retrouve dans le livre. Alors, maintenant, Bernard va nous parler de Philippe.
Bon, oh my God, absent, là, parce que après ce flot de mots, je me sens un peu mal placé pour vous en lancer d'autres, mais ça va être moins cataracte et rhizomatique. Mais en fait, c'est très beau comme vidéo, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, là. Ça nous montre très bien cette pensée qui traverse des multiples territoires en les reliant, puis en dessinant une sorte de cartographie qui est parfois insaisissable. En fait, une des caractéristiques de Philippe, pour moi, c'est quelqu'un qui est fondamentalement insaisissable tout en rendant beaucoup de choses saisissables. Donc, pour le décrire ou pour en parler de l'homme et de l'œuvre, je ne le ferai pas parce que je crois qu'une seule personne beaucoup plus intelligente et instruite que moi ne saurait le faire non plus. Donc, ça prendrait des multiples approches. Si je veux juste parler de lui plus que par l'expérience, par des souvenirs, surtout en ce moment où la voix de Philippe me manque beaucoup. En ce moment précis, dont on a fait référence tout un peu, c'est que Montréal est actuellement traversé par des flux qui court-circuitent les infrastructures. Il y a des parages de castors qui sont érigés. Et les infrastructures montrent leur visage tout à fait affolé et désordonné. Et je crois qu'il y aurait une voix fort percutante sur la scène publique et n'aurait pas hésité de lancer des patates en catapulte pour dénoncer la réaction de cette atteinte à la démocratie. Mais bon, revenons à des choses immédiates. Alors, plus que jamais, les chemins ouverts par cet artiste tout-terrain, et pour moi, c'est ça l'important, je veux faire un portrait de l'artiste tout-terrain, semble indiquer d'autres voies pour sortir de l'impasse d'un passé qui n'en finit plus, qu'on traite souvent de postmoderne, mais que lui nommait faire du présent. Et je trouve que dans son œuvre, il y a constamment cette ritournelle de faire du présent. En tant qu'ami et en tant que témoin de certains moments de sa vie, pas tous, et il y en a bien d'autres ici qui peuvent en témoigner d'autres façons, je voudrais juste retracer quelques trajets de ce tout-terrain. Alors, pour moi, d'abord, qui est Philippe Côté? Impossible. J'ai dit que c'était un insaisissable, mais on peut quand même mettre quelques étiquettes. C'est un citoyen engagé dans toutes sortes de domaines, pour ceux qui ne l'ont pas connu. Il était dans plusieurs comités, associations, membre de plusieurs CA importants en culture, en santé, entre autres l'hôpital Saint-Luc, le grand Superchum. Là. Il était représentant des citoyens, activiste en urbanisme, très impliqué dans le patrimoine de Montréal, défenseur du patrimoine de Montréal absolument, intellectuel excentrique, lecteur nocturne vorace, auteur de mémoires insolites, discoureur de bois sans bandes, consultant sans acabit, ami des ruines et ennemi des autoroutes sans sens. C'est tout ça là, pour moi. À travers toutes ses activités, Philippe demeure toujours artiste, car c'est justement en opérant des liens entre ses champs qu'il exerce et dans son travail, on peut dire... Et lui, c'est lui qui se résumait de cette façon-là. Ma job en art consiste à interpréter publiquement les infrastructures qui nous mobilisent et nous gouvernent. Car sans raison apparente, les nouvelles mœurs nous envahissent. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Là. Alors je voudrais maintenant nommer le véhicule de l'artiste tout-terrain. C'est avant tout la parole propulsée par sa légendaire verbomotricité. Puis là, on l'a vu, là. Ça s'est un peu calmé à la fin. Mais une anecdote, c'est Sonia qui m'a raconté ça. François est peut-être ici. Quand il était petit, il paraît qu'on l'appelait radio. Peu importe. À travers ces mots, puis là, ça, il n'a jamais cessé d'émettre des mots, là, comme station toujours en marche. Alors, à travers ses mots parlés ou écrits et sa pensée en gestes et actions, il déclenchait une circulation d'électrons libres opérant sur le sens, l'échange symbolique et le réel. Il faisait valoir son arme par des discours infiltrants, des tracts incisifs, des présentations publiques inusitées, des guérillas de mots qui pouvaient surgir à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance. En tant qu'orateur et gesticulateur virtuose, et ça aussi, il faut le dire, il parlait beaucoup avec son corps et avec ses mains, Philippe faisait de l'art en toutes circonstances, mais sans nécessairement le nommer ou s'en réclamer. De même, dans ses activités dites artistiques, performances, manœuvres, actions, et même des réalisations type cartographie ou monument, mais en forme de carte, mais même quand c'est en granit, c'est une carte, puis ça disparaît parfois, pour nommer que celle-ci, il occupait explicitement aussi le domaine de la politique, de l'économie, de l'urbain et du social, en revenant toujours sur la traduction publique des infrastructures, en transcodant les flux qui opèrent à même le réel, en chantant sa ritournelle « Qu'en faire ?»« Qu'en faire ?» Et c'est une bonne question, hein, Lénine a posé une question semblable. Un extradisciplinaire extraordinaire qui n'étant d'aucun champ en particulier, les traversait tous en les reliant, toujours en réseau, à tout bout de champ. L'artiste tout-terrain, c'était d'abord un cartographe qui a tracé son propre terrain, un terrain en perpétuelle mutation, toujours délocalisé et délocalisable. Donc les cartes, on a vu un peu dans la vidéo, c'est ça qui passait là en avant pour lire tous ces... Ça, c'est une mise en action de l'archive, une délocalisation de l'archive. Mais là, je ne voudrais pas m'aventurer dans l'explication de tout cela. C'est juste pour nommer cette pratique-là qui est celle du cartographe et que je veux révéler ici en première partie. En tant que membre du groupe impersonnel de la trop peu connue Société de la conservation du présent, il a agi comme philosophe et pondeur de concepts, et sa matière première étant l'information et sa circulation telle qu'induite par des infrastructures. Il se fait alors l'instigateur d'un flux d'informations en constituant un fonds d'archives en forme de cartes de plastique, des collages surtout textuels à multiples références, une banque donnée portative qu'on peut donc porter dans sa poche et qui pèse rien de plus que quelques grammes, qui circule à travers l'espace public parce que ces cartes-là étaient données à toutes sortes de personnes, puis qui étaient montrées et qui avaient une sorte de valeur d'échange comparable à l'argent qui circule. Donc, pas d'objet, juste la circulation de sens et de symboles et de références et de copie. Et voilà. Et j'ai juste une petite anecdote pour donner un peu de vivant à tout cela. En 1991, à Québec, il y avait un colloque sur l'oralité polyphonique. Et là, un des invités, c'était Félix Guattari, entre autres, qui est un des grandes figures qui a inspiré Philippe à beaucoup de niveaux, mais surtout pour la cartographie. Puis on était dehors, dehors du théâtre, je ne me rappelle plus trop où, et on s'ennuyait tous les trois. Puis Félix Guattari était assis peut-être 15 mètres de l'autre bord. Puis j'ai dit à Philippe, donne-lui donc une carte. Parce que tu as des cartes 1000 plateaux qui allaient chercher 1000 plateaux dans un supermarché sur Mont-Royal qui s'appelait à l'époque 1000 plateaux, puis acheter du bœuf haché et toutes sortes de choses pour les coller sur des cartes comme ça. Donc il y en avait plein. Et puis il y avait plein de citations de Guattari et autres. Alors, timidement, parce qu'il avait un côté assez quand même timide, et il s'est lentement faufilé vers M. Guattari, qui d'ailleurs est aussi assez timide, et il lui a donné la carte. Guattari a lu la carte, il a ri, il a dit « ça circule ». Et Philippe a dit « c'est en plein ça ». Puis là, il s'est retourné, puis je crois qu'il était vraiment fier de ce moment-là, parce qu'il y avait comme un retour de la copie à l'origine, en tout cas. C'est juste un petit moment, là, mais je crois qu'il a encore cette carte-là, quelque part dans... Enfin, là, je ne sais pas. Alors, pour revenir aux trajectoires de notre cartographe, c'est à travers ces activités d'arpenteur de l'improbable que le cartographe a pu stimuler un transit d'informations pour élaborer une nouvelle cartographie. Philippe, le cartographe, traça donc des chemins, a ouvert des pistes pour laisser le présent se faire. Ça, c'est le travail de cartographe. Pour moi, c'est un premier temps dans sa pratique qui était surtout donc relié à la SCP. Ce qui est intéressant pour moi dans ce projet-là de la cartographie, c'est qu'il n'y a pas... Bon, quoique, on pourrait dire qu'il y a des objets, mais ces objets-là sont constamment en nous ramenant à d'autres champs de référence littéraires, type pop, artistique, journalistique, économique, écologique, sans jamais être fixé dans un seul domaine. Et là encore, le lièvre, qui était un peu son identité totémique, fait ressortir ses agilités de sauter d'un domaine à l'autre, et voilà, jamais en échappant à toute prise. Alors, le cartographe fait circuler, il ne s'arrête pas, il n'y a pas de forme finale, que des traductions, que des transits, que des transcodages, que des flux. La deuxième période, c'est avec la dissolution de la SCP vers 1994, je pense, que Philippe s'est frayé un autre chemin en tant que... Bon, il a débarqué de l'autoroute de l'information avec l'arrivée du toutou numérique, qui est appelé le toutou numérique. Puis la SCP avait beaucoup anticipé l'arrivée des arts médiatiques et de l'Internet avec le musée Standard, qui est une œuvre que je ne vais pas décrire ici, là, mais il y a un fonds d'archives où on peut chercher plein de choses. Et donc, il a débarqué de l'autoroute... de l'information pour s'engager sur le terrain concret qui est le terrain du hyperlocal, les abords du pont Jean-Jacques... Pourquoi j'ai dit toujours Jean-Jacques Cartier, Et ça, c'est, je dis Jean-Jacques, bon, c'est un contrat social. C'est le début des Amis des Ruines. Lui-même s'est auto-baptisé l'Ami des Ruines. C'est un clin d'œil à Benjamin. Et là, il y a une fabuleuse époque, surtout par rapport au sujet ou à la thématique de ce colloque, c'est le territoire et l'art. Et il s'investit à fond la caisse, là, pour utiliser une expression, depuis le milieu des années 90, donc dans ce terrain autour du... ça, c'est pas loin, là, c'est l'échangeur Berry, là, à l'ICA. Là. Les images sont là afin de donner un peu de vie et d'illustrer, mais pas directement le propos. Alors, il s'est engagé dans un hyperlocal à résonance globale, et dans ce secteur-là, tout est là. Les infrastructures datant du 19e siècle, le petit 20e et le tout petit 21e. Et ce que Philippe a appelé son atelier plein air 24/24. Et c'est là qu'il a œuvré surtout en tant qu'artiste, activiste et citoyen. Alors, arpenteur de l'improbable, défricheur de l'inusité, il n'a cessé d'interroger ces multiples infrastructures qui se trouvent donc sur les abords du pont Jacques-Cartier, qu'il perçoit comme un monde aimanté régien qui le lie donc la ville de Montréal à la Montérégie, à la rurbanité et la ruralité, ce que je trouve une fabuleuse capacité de transformer et de percevoir le paysage urbain. Donc tout ça, c'est une façon artistique d'opérer sur du non-art aussi, là, si on veut. Et surtout, son grand ami, la fameuse station de pompage Craig qui se trouve en bas, toute isolée, qui résiste seule devant toute cette montagne de transit, d'autoroute. Et c'est à partir de cette station de pompage qui a choisi donc de se nommer l'Ami des Ruines, celui qui écoute, échange avec et protège ces infrastructures qui nous parlent non seulement de ce qui a été, mais surtout de ce qui se passe à présent et qui nous laisse entrevoir l'avènement d'un futur ruine. Là-dessus aussi, je crois qu'il a été très prophétique dans ses façons de lire le territoire et d'y intervenir. C'est aussi dans cette optique de l'Ami des Ruines qu'il entreprend une résidence au 3e impérial pour faire... c'est une résidence qui a duré assez longtemps et qui a donné suite à une formidable réalisation. C'est une grande plaque en granit en mémoire du verglas de 1988. Ici, c'est encore les infrastructures que Philippe traduit et met en circulation à travers des icônes tant drôles que graves, et qui permettent de faire une lecture éclairante de cette tempête naturelle qui s'est transformée en véritable crise sociale par la suite. Alors, on voit en haut El Niño, on voit deux sapins pour la réinformation, puis là, derrière chaque chose, il y a une pensée, là, la réinformation, c'est un sapin peut en cacher un autre, etc. Donc, c'est encore un exemple qui est une œuvre physique, un objet, mais qui contient tellement de liens et d'interrelations qu'on peut parler d'une œuvre qui fait circuler, qui transporte du symbolique, de l'information et qui est délocalisable. Il a d'ailleurs été délocalisé. Est-ce qu'elle a été retrouvée, cette plaque? Oui. OK. Donc, elle est nomade. Elle est, faut le faire, hein? Quand même, c'est gros. Et aussi, à travers cette œuvre, c'est une mémoire écrite dans la foulée de cette crise qui était surtout une crise politique et sociale et qui a pu, à travers un mémoire qu'il a soumis, pour le... Oui, Solidarité et Ruralité du Québec, une œuvre aussi qui peut compter comme étant une œuvre littéraire, hein, ou... En tout cas, là, il retrace les enjeux du pouvoir qui se sont révélés lors de cette implosion en chaîne d'une infrastructure publique. Là encore, la question se pose. Et là, je cite, « Quelles sont les infrastructures qui changent à ce point-là nos vies ?» Là, on peut faire un parallèle avec la loi Matraque actuelle. Avec cette déroute, ce faire patate monumental de l'appareil d'État, de cette atteinte à l'infrastructure publique immatérielle nommée démocratie, Philippe serait certainement déjà monté aux barricades pour catapulter des mots et émettre son diagnostic. Il aurait peut-être prononcé un « tombe à la matraque, catapulter des patates » pour protester et applaudi tous ces barrages de castors qui se sont érigés en premier dans son quartier natal et un peu partout par après pour agir comme interrupteur d'un courant de pouvoir complètement affolé. Alors pour moi, Philippe, c'est l'exemple même de quelqu'un qui résistait à travers des multiples prises de position, qui défendait le droit de se représenter en tout temps, de faire présence tout en demeurant insaisissable. Si sa parole vive ne peut plus directement opérer sur le réel, la formidable boîte à outils qui nous a laissés peut nous permettre de dresser des balises pour mieux traverser ce présent où des ruines toutes fraîches nous indiquent des nouveaux chemins. Pour finir, je vais juste lire une petite citation qui me semble bien résumer l'âme de Philippe. « À nouveau, les ruines chantent, l'art est action vivante. » Philippe, l'inoubliable, ta présence perdure. Merci.
Alors, merci beaucoup, Bernard, pour ce beau portrait d'insaisissable. Et puis, on termine avec Adriana de Oliveira, qui enseigne les arts visuels dans le milieu scolaire, communautaire, parascolaire, qui est coordonnatrice des activités éducatives à SCOL et puis aussi chargée de projet au Centre Turbine et chargée de cours à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Philippe a écrit une très, très, très belle lettre à Adriana. C'est Céline qui m'en a parlé la première. Adriana a accepté de partager cette lettre. On en a imprimé une cinquantaine d'exemplaires qui sont à l'extérieur. Et Adriana va vous parler de cette lettre qui est tellement belle, qui est une œuvre aussi de Philippe.
Merci d'avoir photocopié couleur, parce que avec la lettre que j'ai reçue de Philippe en 1999, il m'a offert aussi une carte couleur avec son dessin assez didactique pour me montrer un peu l'histoire de Montréal pour une nouvelle arrivante. Et quelque part, cette lettre, pour moi, je pense que le fait de l'avoir écrit, ça donnait le sens. C'est comme s'il dit, OK, là, il y a du sens qu'on devienne vraiment amis parce que j'ai découvert, Adriana, l'essence entre le Brésil et plutôt Montréal. Donc, je vais partager avec vous avec cette lettre que je l'aurais trouvée l'année dernière. Que je suis sûre qu'il n'y aurait aucun problème de partager avec vous. Donc, il m'a écrit cette lettre le 5 août 1999. J'avais pensé à lire quelques extraits, mais je me suis dit, Adriana, ce serait une grande trahison. Il faut que je le partage entièrement avec vous. Donc voilà, Adriana, bonsoir. Je te poste un dossier qui hybride l'histoire politique et industrielle du Canada et la littérature transamérique du Brésil. Un récent métissage qui passe à travers les nouvelles ruines qui s'érigent dans les quartiers centre et sud de Montréal. Pourquoi t'envoyer un tel dossier sur les patrimoines d'ici? Cela m'offre l'occasion de t'écrire. En pensant aussi à Bernard, car nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer souvent au cours des derniers mois. Note que je suis encore troublée par la sauvage destruction de la Loco Shop 1883, qui a eu lieu dans la journée du samedi 31 juillet 1999. Cette semaine, j'ai tout confondu, la désertification du quartier, l'oubli de la grandeur passée, une usine de caoutchouc disparue, une manufacture des locomotives comme nouveau champ des ruines, l'exil infini des métis, puis la reconnaissance de Louis Riel, opéré par lointain poète Carvalho. Proximité du lointain, le Brésil. Les gestes est naïf, le lointain est élastique. Pour moi, le Brésil, c'est toi. J'avoue que tu me fascines avec ton projet de vie qui impliqua un jour ton départ du Brésil et ta présence éternelle à Montréal. L'éternel, Philippe nous a donné en italique. Ton grand saut continental me travaille encore. J'y pense par blocs fugaces et là, dans les courants certains des événements. Je découvre dans les ruines de mon quartier une curieuse porte qui ouvre son histoire commune. Une vieille porte américaine qui me fait plaisir de te communiquer. Pour toi, présentement, je reprends les idées et les ruines qui traversent mes pensées. Depuis 1992, en mon quartier natal, je m'intéresse aux abords du pont Jacques-Cartier, autant du point de vue de mœurs actuelles que du patrimoine inexploité. Au cours des ans, mon agir changea. Ce qui fut une recherche allégorique sur les infrastructures en général et plus précisément sur celle de l'autoroute électronique se transforma en obsession. Tout faire pour faire du vrai. Je me suis laissé prendre par les possibles du réel. Peu à peu, il me sembla possible de produire l'interprétation in situ des infrastructures qui traversent les bas de la ville de Montréal. Ainsi, un immense chantier public s'ouvrit à moi. J'ai étudié les hyperlocales. Ces lieux physiques de la réflexion m'offrirent au cours des ans tous les passages subjectifs vers l'histoire universelle des infrastructures continentales et des mœurs politiques. Les charbons s'enfuient, les bons chars s'en vont. Essayons de ralentir les choses, lieux, mœurs, infrastructures. Tout à coup, à mon retour de Granby, le 6 mai 1999, le ministère des Transports du Québec, MTQ, annonce privément qu'il va creuser la rue Notre-Dame-Est pour la transformer totalement en autoroute Ville-Marie. Tout bascule. L'autoroute va séparer la vie urbaine du quartier du majestueux fleuve Saint-Laurent. Simultanément, mes rêveries d'urbanisme deviennent possibles car tout le secteur du pont Jacques-Cartier est promis à de nouveaux chantiers urbains. Dès lors, avec cette annonce d'une nouvelle infrastructure routière, il y a comme l'ouverture d'une nouvelle boîte de Pandore. C'est là qu'invoque les mythes de Prométhée, car les vieilles boîtes de Pandore, qualifiées en grec ancien de kalon-kakon, beau cadeau, restent là en fait plus des malheurs que des joies. L'autoroute s'en vient, les quartiers brûlent, le 20e siècle s'en va. J'ai vu dans la nuit du samedi 31 juillet 1999 la destruction intempestive d'une titanesque architecture industrielle. Soudainement, samedi matin, une petite partie de la Loco Shop construite en 1883 par le Canadian Pacific brûle. Un bâtiment au passé oublié qui marque l'histoire militaire, financière, politique, infrastructurelle du Canada. En 1885, il fut usiné les trains qui amèneront l'armée canadienne en Saskatchewan combattre la rébellion des Métis. En 1885, malgré de nombreuses à Montréal, Louis Riel, le chef des Métis, est pendu sur l'ordre du premier ministre du Canada, John MacDonald. Depuis cette défaite sanglante au Canada, c'est les îles infinies des Métis. Dans les désordres impossibles des choses, dans la soirée du samedi, les pompiers décident de faire démolir la Loco Shop, 1883. Chaque coup de pelle mécanique me frappa. C'est déprimant. Le tout se passa en quelques heures. Dès lors, au nom de la santé et de la sécurité publique, s'érigea une vaste ruine au pied du pont Jacques-Cartier. La destruction de la Loco Shop, 1883, est un désastre environnemental et patrimonial. L'autoroute s'en vient, les promoteurs le savent, déjà les quartiers brûlent, il nous faudrait donc partir d'ici. Mais où est le Brésil? Où est ton pays natal en cette histoire des ruines locales? Il est possible d'imaginer que Jacques Cartier, qui navigua en ces lieux en 1534, connaissait déjà le Brésil, au dire de Lévis Strauss, d'un triste tropique. Qu'en dirait de plus? Faisons un détour. L'histoire de la Compagnie des chemins de fer du Canadian Pacific est inscrite dans la Fondation du Canada, car l'acte constitutionnel de 1867 énonce que le continent nord-américain sera traversé par une infrastructure ferroviaire en vue de réaliser un nouvel État transocéanique dans le cadre mondial de l'Empire britannique. Pour relier les deux océans, le Canadian Pacific est incorporé en 1881 et en 1883. La compagnie construit, avec une énorme subvention fédérale, une loco shop sur l'actuelle avenue de Lorimier. Une usine se fabriquera jusqu'en 1904, près de 390 locomotives à vapeur. En 1885, le contrat militaire lié à la guerre contre les Métis évita la faillite du Canadian Pacific. Dès lors, le départ du premier train transcontinental se fit en 1886 de la gare d'Alousie, située dans les faubourgs Québec au coin des Berry et Notre-Dame à Montréal. L'aventure financière et humaine du Canadian Pacific est complexe et sa puissance politique est encore immense. Rappelons que la Caisse des dépôts et placements du Québec faillit ne pas devenir actionnaire de la compagnie au courant des années 80, car Ottawa tenta de passer une loi au Parlement fédéral pour l'en exclure. Ajoutons qu'en 90, les tribulations politiques d'Air Canada, qui tentent légalement d'accéder aux riches marchés aériens de l'Orient et du Sud, même si les cabinets fédéraux détournent encore les règlements au profit du Canadian Pacific Airlines. OK, reprenons notre histoire. En 1885, le Canadian Pacific va faire faillite, faute de nouvelles subventions. Au même moment, en Saskatchewan, le Métis Louis Riel revient d'exil, appelé par son peuple car Ottawa exproprie la population autochtone au profit du Canadian Pacific et de l'Empire britannique. En 1885, c'est la seconde rébellion des Métis après celle de 1870 qui amena la fondation du Manitoba en 1871. En 1885, Ottawa renfloue le Canadian Pacific pour fabriquer rapidement les matériels roulants qui amènera dans l'Ouest l'armée des volontaires canadiens. Riel fut pendu en 1885, même si en sa faveur, Montréal connut de grandes manifestations populaires. En 1885, Montréal panique, car sa jeunesse montréalaise meurt par milliers à cause de l'épidémie de variole qui frappa la ville. Mais cela est une autre histoire. Ajoutons en ces lieux mythiques une autre histoire des pendus. En 1883, le nom de l'avenue où fut construit la loco-shop prit le nom du chevalier de Lorimier, ainsi renommé en l'honneur du patriote mort le 15 février 1839 par pendaison devant la prison d'au pied du courant, située jusqu'au sud de la loco-shop. L'avenue portait antérieurement le nom du général anglais Cockburn, à savoir le nom du gouverneur militaire qui condamna à mort 12 patriotes pendus durant l'hiver 38-39. En 1883, l'ironie de l'histoire, le nom de la victime fut substitué au nom du bourreau. D'ailleurs, le monument aux patriotes de 1837-1838 fut érigé en 1926 devant la prison au pied du courant. Porte l'inscription ironique, vaincus dans la lutte, ils ont triomphé dans l'histoire. Mais où est le Brésil? En 1886, le poète brésilien Matias Carvalho rendit hommage au métis Louis Riel avec un poème qu'il publia en 1886 à Rio de Janeiro. Soit un an après sa mort par pendaison, ce poème fut traduit et publié en français en 1997. Pour Carvalho, à travers la figure de Riel, se joue l'avenir démocratique de tous les continents, car l'esclavage n'est pas encore aboli au Brésil, donc 1889, tandis qu'il fallut une guerre civile pour libérer les États-Unis de la domination esclavagiste. Je t'envoie ces poèmes. Ce détour littéraire qui réécrit l'histoire politique industrielle du Centre-Sud ne répond pas entièrement à la question suivante. Comment les poètes brésiliens Carvalho prit-il connaissance de l'épopée existentielle de Louis Riel? Certainement par les journaux et les agences internationales. Il lui fallut une intuition du métissage culturel propre au continent américain et qui lui offrait l'expérience du Brésil. J'ajouterai une autre réponse, car en 1886, Montréal et Rio étaient en contact étroit depuis plus de 30 ans grâce au commerce du caoutchouc. Longtemps, le Brésil eut les monopoles du caoutchouc. Cette dimension commerciale qui allie procédés industriels, transport et environnement s'explique par le fait que la première usine de caoutchouc d'Amérique du Nord fut ouverte à Montréal en 1854. Histoire hasardeuse, mais réelle, l'usine de la Canadian Rubber fut construite à côté de la prison des Patriotes, au sud de la Loco Shop, au lieu dit au pied du courant, donc dans les centres sud. Qu'en dire de plus? Sans les caoutchoucs, les chars ne rouleraient pas, mais les trains, oui. La terre est ronde, les globales existent, insiste les locales. Adriana, je prépare pour octobre prochain un opéra urbain sur les abords du pont Jacques-Cartier et si cela te chante, j'aimerais que tu lises en brésilien un extrait du poème de Carvalho. Salut, Philippe. PS, Bernard peut lire les documents? Ben oui. Alors, j'ai toujours eu un grand plaisir à écouter Philippe. Des fois, on avait des parties chez nous dans les jardins et Philippe restait 48 heures. J'étais tellement fascinée pour l'entendre et des fois, parce que je ne parlais pas vraiment les français et j'ai déconnecté tellement, mais j'étais toujours fascinée par sa communication corporelle. Donc, j'étais complètement fascinée et je suis certaine que quelque part, il a trouvé un lien historique entre le Montréal et le Brésil. C'était pour qu'il certifie qu'on pourrait devenir des amis, vraiment. Alors, c'était un plaisir de partager cette lettre qui a survécu en feu chez nous, d'ailleurs. Alors, bon colloque.
Alors, on termine ici l'hommage à Philippe. C'est un hommage, un petit hommage. Il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait un colloque à faire sur Philippe. Alors, mais je vous invite tout le monde à prendre le verre de l'amitié. Donc, j'espère qu'on se retrouve tout de suite dans la salle, mais j'espère qu'on se retrouve aussi demain au colloque. Et puis, j'espère que l'esprit de Philippe sera parmi nous. Voilà, merci.